Bonjour à toutes et à tous, c'est le moment de retrouver notre émission mensuelle lecture de textes de littérature féminine et féministe par Jacqueline Engrave, présidente de Femmes Solidaires 04. Bonjour Jacqueline.
Bonjour Odile, bonjour Tiffany, bonjour à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Eh bien, aujourd'hui, je ne suis pas seule à ce micro, exceptionnellement. J'ai une invitée, Solange, qui va se présenter elle-même. Solange, c'est à toi de te présenter.
Oui, bonjour à tous. Alors, je suis Solange Martz. J'ai rejoint récemment l'équipe de Femmes Solidaires. Et je viens aujourd'hui sur invitation de Jacqueline. Effectivement, et je suis ravie d'être là.
Alors, nous allons lire le texte que j'ai choisi pour aujourd'hui, en ce début du mois de mars, qui est le mois pour les droits des femmes, comme vous le savez, dans le cadre de la journée internationale du 8 mars. C'est donc la lecture à deux voix, présentant la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale le 28 janvier, à l'unanimité, donc très récemment, et actuellement en cours d'examen par le Sénat. Il s'agit de la fin de la notion dite de devoir conjugal.
Oui, Jacqueline, à l'Assemblée nationale, ce 21 janvier 2026, enfin. Fin du devoir conjugal, quand le droit français est sommé de rattraper la démocratie. Quel soulagement pour toutes les femmes. Pendant des siècles, le mariage a servi d'alibi juridique à une domination masculine, silencieuse, profondément enraciné dans le droit et dans les mentalités. L'idée qu'un corps pouvait être dû, exigé, arraché au nom d'un lien matrimonial. Sous couvert d'un prétendu devoir conjugal, des juridictions françaises ont longtemps validé l'idée qu'un refus sexuel pouvait constituer une faute civile, y compris lorsque ce refus protégeait la santé, la dignité ou l'intégrité d'une personne. En janvier 2025, donc l'année dernière, la Cour européenne des droits de l'homme a brutalement rappelé à la France que le mariage ne vaut jamais consentement. Une proposition de loi examinée à l'Assemblée nationale, donc ce 21 janvier 2026, entend enfin traduire cette évidence dans le Code civil. Donc adoptée à l'unanimité en 2026 et en cours d'examen au Sénat. La scène est presque absurde, tant elle révèle un retard historique. Alors que la France reconnaît depuis plus de 30 ans le viol conjugal comme un crime, son droit civil continue jusqu'à aujourd'hui à tolérer qu'un refus de relation sexuelle puisse être sanctionné dans le cadre d'un divorce. D'un côté, donc, le Code pénal affirme que toute relation sexuelle sans consentement est une violence, et de l'autre, le Code civil, par le jeu d'une jurisprudence archaïque, entretenait l'idée inverse, que dans le mariage, le consentement serait présumé et l'acte sexuel obligatoire. C'est cette incohérence majeure que vient percuter de plein fouet une proposition de loi, donc transpartisane, examinée le 21 janvier 2026 en commission des lois à l'Assemblée nationale. Derrière un débat juridique en apparence technique se joue en réalité une question politique centrale. La République reconnaît-elle enfin, sans ambiguïté, que nul ne renonce à la liberté de disposer de son corps en se mariant. Le devoir conjugal, une fiction juridique construite contre le corps des femmes. Il faut le dire clairement, le devoir conjugal n'existe dans aucun texte de loi. Il ne figure ni dans le Code civil, ni dans le Code pénal. Il n'a jamais été débattu ni voté par les représentants du peuple. Et pourtant, il a produit pendant des décennies des décisions de justice lourdes de conséquences. Cette notion est née d'une interprétation extensive et profondément idéologique de l'article 242 du Code civil qui permet de prononcer un divorce pour faute en cas de violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations issues du mariage. Parmi ces obligations figurent la fidélité, le respect, l'assistance et la communauté de vie. À aucun moment, le législateur n'a transcrit une obligation sexuelle. C'est la jurisprudence, c'est-à-dire l'interprétation de la loi par les juges, qui, au fil du temps, a transformé la communauté de vie prévue à l'article 215 en une supposée communauté de lit. Dès la fin du XIXe siècle, les tribunaux ont commencé à sanctionner la non-consommation du mariage. En 1908, la Cour de cassation franchit un cap, à considérant que l'abstention sexuelle prolongée peut constituer une faute. Cette logique sera malheureusement ensuite confirmée à de multiples reprises au cours du XXe siècle, notamment en 1964, 65, 71, 75 et en 1997. Dans les faits, cette jurisprudence a touché quasi exclusivement les femmes, en vertu d'une interprétation bien rétrograde du Code civil. Ce sont elles qui, pour avoir refusé des relations sexuelles, parfois pour des raisons médicales, psychologiques ou liées à des violences, ont été jugées responsables de l'échec du mariage. Ce sont elles qui ont été privées de prestations compensatoires, c'est-à-dire de pensions alimentaires, condamnées à verser des dommages et intérêts désignés comme fautives. Ce devoir conjugal est un héritage direct du droit canonique médiéval, dans lequel le mariage instituait un droit d'usage du corps de l'épouse, une vision dans laquelle la sexualité n'est ni un espace de liberté, ni un échange consenti, mais une obligation morale et sociale. Une vision radicalement incompatible avec les principes républicains d'égalité et bien sûr de dignité. Le viol conjugal reconnu mais encore neutralisé par le droit civil. Le paradoxe est glaçant. En droit pénal, le viol conjugal est reconnu depuis plus de 30 ans. Le 5 septembre 1990, la Cour de cassation affirme sans détour que le crime de viol peut être constitué entre époux. En 1992, elle précise que la présomption de consentement dans le couple ne vaut que jusqu'à preuve du contraire. Et la même année, la réforme du code pénal fait de la qualité de conjoint une circonstance aggravante en cas de viol. La loi du 4 avril 2006 va encore plus loin en inscrivant explicitement dans le code pénal que les viols et agressions sexuelles sont constitués, entendez bien, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et la victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Fermez les guillemets. Autrement dit, le mariage n'est ni une excuse, ni un bouclier, ni un passe-droit pour le mari. Et pourtant, dans les salles d'audience civile, cette réalité était contournée. Refuser une relation sexuelle pouvait toujours être analysé comme un manquement au devoir du mariage. Une violence pouvait être reconnue comme un crime d'un côté et les refus de la subir comme une faute de l'autre. Une schizophrénie juridique révélatrice d'un rapport profondément biaisé au corps des femmes. Alors la condamnation de trop, c'est quand la Cour européenne des droits de l'homme humilie le droit français, le 23 janvier 2025. Marquant un tournant, pour la première fois, la France est condamnée explicitement pour avoir fondé un divorce pour faute sur le refus de relations sexuelles par l'épouse. L'affaire est tristement banale. Madame, âgée de 69 ans, mariée, cesse toute relation sexuelle en 2004 pour des raisons de santé. Elle engage une procédure de divorce en 2012. En première instance, le tribunal prononce un divorce pour altération définitive du lien conjugal. Mais la Cour d'appel de Versailles, en 2019, décide de faire porter la responsabilité de la rupture exclusivement sur Madame, au motif qu'elle aurait manqué à son devoir conjugal. Et la Cour de cassation valide cette lecture en 2020.
Incroyable.
Donc, saisie en 2021, la Cour européenne des droits de l'homme démonte méthodiquement le raisonnement des juridictions françaises. Elle rappelle que le consentement au mariage n'importe jamais consentement aux relations sexuelles futures. Elle souligne que, entre guillemets, le « devoir conjugal » ne prend aucunement en compte la notion de consentement. Elle avertit qu'une telle logique est de nature à vider le viol conjugal de sa portée pénale. Elle rappelle donc l'évidence, tout acte sexuel non consenti est constitutif d'une forme de violence sexuelle. La Cour conclut à une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et condamne la France à verser 15 000 euros à la requérante. Une condamnation lourde de sens qui vise une jurisprudence, entre guillemets, ancienne mais constante, encore appliquée en France au XXIe siècle contre les femmes.
Inscrire le consentement dans le Code civil, c'est une rupture politique. C'est dans ce contexte que la proposition de loi numéro 2175 a été déposée. Son objectif est limpide, mettre fin à toute ambiguïté. Elle prévoit d'inscrire à l'article 212 du Code civil une phrase simple, mais révolutionnaire dans sa portée juridique. Ouvrez les guillemets, chacun respecte le consentement de l'autre. Fermez les guillemets. Elle précise également que le divorce pour faute ne peut plus jamais être fondé sur l'absence ou le refus de relations sexuelles. Un amendement complète l'article 215 afin d'affirmer explicitement que la communauté de vie n'implique aucune obligation sexuelle. Ce que fait ce texte, au fond, c'est réaffirmer une hiérarchie des normes et des valeurs. La dignité humaine prime sur les constructions morales héritées d'un autre âge. Le droit civil ne peut plus être le refuge d'une violence que le droit pénal condamne. C'est une cohérence renforcée avec la réforme pénale de 2025, la réforme sur le consentement. Cette réforme s'inscrit dans un mouvement plus large de reconnaissance du consentement. En novembre 2025, donc très récemment, la France a profondément modifié la définition pénale des infractions sexuelles, c'est-à-dire du viol. Désormais, le consentement au rapport sexuel est défini comme libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il ne peut jamais être déduit du silence ou de l'absence de réaction. Qui ne dit mot ne consent pas. Cette évolution longtemps attendue permet de mieux prendre en compte les mécanismes de sidération, c'est-à-dire de peur, d'emprise, de contrainte psychologique, de soumission chimique, y compris par l'alcool, où la victime n'est plus capable de réfléchir, il aurait été incohérent, voire hypocrite, que le droit civil continue à produire des décisions fondées sur une obligation sexuelle implicite. La portée de cette réforme est aussi symbolique. Les articles 212 et 215 du Code civil sont lus lors de chaque mariage civil. Y inscrire le consentement, c'est transformer la cérémonie elle-même en un acte politique et éducatif. C'est rappeler publiquement que l'engagement affectif n'autorise jamais la contrainte. C'est aussi adresser un message clair à la société tout entière. La sexualité ne relève ni du devoir, ni de la dette, ni du sacrifice. Elle relève de la liberté. Pour les associations féministes et sociétés civiles, ce sont des décennies de combats enfin reconnus. Les associations féministes ont salué cette proposition de loi comme une avancée historique. Elle s'inscrit dans toute la démarche de femmes solidaires et des associations partenaires. Le collectif féministe contre le viol et la Fondation des femmes, qui accompagnait Madame devant la Commission européenne des droits de l'homme, rappelle que ce combat est le fruit de décennies de travail, de plaidoyer et de résistance face à un droit longtemps sourd aux réalités vécues spécialement par les femmes et droit protecteur des hommes. Alors que près d'un viol sur deux est commis par le conjoint ou le concubin, il est inacceptable que les magistrats puissent aujourd'hui encore sous-entendre que le mariage implique une obligation de relation sexuelle entre époux. Pour les juristes engagés EES dans cette affaire, cette réforme marque la fin officielle d'une lecture canonique et patriarcale du mariage, longtemps tolérée par les tribunaux au nom de la tradition. Il aura fallu une condamnation européenne pour forcer la France à regarder ses propres contradictions. Mieux vaut une avancée tardive qu'un archaïsme perpétué. Le corps des femmes n'appartient jamais à une institution, pas même au mariage, pas même au mari. Alors, en conclusion, nous dirons que ceci prouve que le combat féministe est une lutte permanente au plus intime de nos vies, que rien n'est définitivement acquis en ce qui concerne les droits des femmes dans une société gangrénée par un patriarcat séculaire. Faut-il rappeler encore la prédiction de Simone de Beauvoir avant sa mort en 1986 au sujet des droits des femmes ? Ces droits ne sont jamais acquis, vous devrez rester vigilante votre vie durant. Voilà, c'est ainsi que se termine notre lecture d'aujourd'hui à deux voix. Merci Solange.
Merci.
Au revoir.
Voilà, et tout de suite, pour rester dans le sujet, on va écouter une chanson de Boris Vian, chantée par Michel Arnaud. Ça s'appelle « Ne vous mariez pas, les filles ».
« Avez-vous vu un homme à poil sortir soudain de la salle de bain, dégoulinant par tous les poils et la moustache pleine de chagrin? Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis, fourchette au poing, l'air abruti, la sauce tomate sur son gilet? Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands, ils sont feignants. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Avez-vous vu un homme trop gros extraire ses jambes de son dodo, se masser le ventre, se gratter les tifs et regarder ses pieds l'air pensif? Vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Faites plutôt du cinéma. Restez plus seule chez votre papa. Devenez serveuse chez un bougnat. Élevez des singes, élevez des chats. Levez la patte à l'opéra. Vendez des boîtes de chocolat. Prenez le voile, vous le prenez pas. Dansez à poil pour les gagas. Soyez radeuse, avenue du bois. Mais ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Avez-vous vu un homme gêné rentrer trop tard pour le dîner, du rouge à lèvres sur son col, du flageolant sur la guibole? Avez-vous vu au cabaret un monsieur qui n'est plus très frais se frotter avec insistance sur une petite fleur d'innocence? Quand ils sont bêtes, ils nous embêtent. Quand ils sont forts, ils font du sport. Quand ils sont riches, ils gardent l'artiche. Quand ils sont durs, ils nous torturent. Avez-vous vu à votre bras ce maigrichon à face de rat friser ses trois poils de moustache et se redresser l'air bravache? Vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Mettez vos robes de gala. Allez danser à l'Olympia. Changez d'amant quatre fois par mois. Prenez la braise et gardez-la. Cachez la fraîche sous vos matelas. À 50 ans, ça servira à vous payer de bons petits gars. Rien dans la tête, tout dans les bras. À la belle vie que ça sera. Si vous ne vous mariez pas, les filles, si vous ne vous mariez pas, si vous ne vous mariez pas, les filles, si vous ne vous mariez pas.